Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous avons appris une bonne nouvelle récemment. Les urgences de Sainte-Terre en Abitibi-Témiscamingue rouvrent son service complet et les 4 lits d'hospitalisation redeviennent accessibles 7 jours sur 7. Souvenez-vous, nous apprenions la fermeture partielle de la petite clinique de cette municipalité à la mi-octobre. Les patients étaient depuis conduits à Val-d'Or pour les soins urgents entre 16h et 8h du matin. En décembre dernier, un homme de la communauté était décédé au milieu de la nuit et certains ont pointé du doigt le manque d'accès aux urgences. La petite municipalité a offert en décembre dernier des primes pour que les professionnels décidés à venir s'établir dans la région et permettre que le CLSC de la ville puisse rouvrir son urgence jour et nuit. L'embauche récente de 2 infirmières et d'une infirmière auxiliaire permet à présent, depuis le début mars, d'assurer la continuité de service. Au Canada, les petites urgences rurales souffrent de pénuries de services. À Québec, le taux de mortalité serait de 2 à 5 fois plus élevé lorsqu'on subit un traumatisme en région, tel qu'un accident vasculaire cérébral. Alors, comment soutenir les urgences en région? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Un Canadien sur 5 vit en région rurale, ce qui l'éloigne parfois d'un médecin et complique les soins d'urgence qu'il doit recevoir. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous nous intéressons à la médecine d'urgence dans les régions les plus éloignées de notre territoire. Nous en parlons avec Jenny Barrett. Elle est coordinatrice et responsable des relations avec les communautés au Living Lab de Charlevoix. On va voir ce que c'est que le Living Lab de Charlevoix. Elle travaille aussi pour la chaire de recherche d'innovation en médecine d'urgence à l'Université Laval, des CERCOM, et le CIS du Chaudière-Appalaches. Bonjour.
Bonjour.
On est aussi en compagnie de Richard Flitt, médecin d'urgence et psychologue, professeur titulaire au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Il est, lui, titulaire de la chaire de recherche en médecine d'urgence, donc de Chaudière-Appalaches, Université Laval, je pense. Bonjour.
Oui, bonjour.
Le service des urgences de Sainte-Terre a fermé ses portes la nuit entre octobre et début mars. La situation semble s'être rétablie aujourd'hui. Ça nous rappelle que vivre en région, c'est aussi parfois se passer ou retarder des soins, même urgents. S'il existe une médecine à 2 vitesses, est-ce que ce serait celle entre les villes et la campagne, Dr Flitt?
Ah oui, absolument. Les écarts au niveau de l'accessibilité aux soins d'urgence dans les régions rurales versus urbaines au Canada sont vraiment, vraiment importants. Et donc, nous, on étudie les urgences rurales depuis les 10 dernières années. On a fait des études dans l'ensemble des urgences rurales du pays, c'est-à-dire plus de 300 urgences rurales. On a vu donc que l'accès, par exemple, à des spécialistes comme des chirurgiens, des soins intensifs, les tests d'imagerie comme les scanners qui sont disponibles à 100% dans les urgences urbaines, ils ne sont disponibles que dans moins de 20% des petites urgences à travers le Canada. Et donc, on voit qu'il y a un écart vraiment important. Les régions rurales doivent transférer des centaines de patients vers les milieux urbains et donc mobiliser des ambulances qui sont déjà et des paramédics qui sont déjà des ressources extrêmement limité dans les régions rurales. Et en conséquence, on a aussi démontré des écarts sur le plan de la mortalité de causes urgentes, telles que des accidents cérébrovasculaires et des accidents points, c'est-à-dire des traumatismes dans les régions rurales versus urbaines au Canada.
Généralement, quand on pense aux urgences et aux soins urgent, il y a le temps aussi, il y a l'espace et le temps qui comptent beaucoup. Est-ce qu'on sait le plus grand temps que peut attendre un patient au Québec pour avoir, qui vient en région, pour avoir des soins?
Par rapport aux soins d'urgence, donc nous on étudie les soins d'urgence, mais ce qui est étonnant, c'est que les petites urgences rurales, donc des urgences, nous on étudie les urgences dans des petits hôpitaux, Donc, mais quand même dans les hôpitaux. Donc, c'est pas des dispensaires, des centres de soins infirmiers en région, c'est pas des CLSC. Donc, c'est vraiment des hôpitaux quand même équipés dans des villes où la population est moins de 15 000 habitants et où on est à une heure minimum là d'un centre de référence, mettons académique ou un centre de référence urbain. Les temps d'attente, étonnamment, dans ces petites urgences-là, sont beaucoup moindres que les temps d'attente dans les urgences urbaines. Et donc, les régions rurales sont très bien desservies en ce qui concerne l'accès pour des petites urgences, si vous coupez, vous cassez un bras, vous avez une lacération, ou même pour la prise en charge initiale de tout problème grave. Mais lorsqu'on a besoin d'offrir des services un peu plus avancés, donc des soins un peu plus critiques, c'est là que le temps se complique. Et on n'a pas les temps précis de ça, mais on sait par exemple qu'une personne qui subit un accident dans une région rurale, ben il faut d'abord trouver la victime, il faut appeler le 911. On a des temps de réponse là qui sont 2 à 3 fois plus élevés que dans les milieux urbains, des temps de réponse ambulanciers. Et après ça, il faut retransporter la personne, la stabiliser souvent dans un milieu rural ou la transporter directement dans un centre de traumatologie qui est quand même assez loin. Et on sait en traumatologie, par exemple, pour ne donner que cet exemple d'urgence, on appelle ça le « golden hour of trauma ». C'est-à-dire que si vous dépassez une période déterminée comme à peu près une heure, vos chances de mourir ou d'avoir des complications sont beaucoup plus importantes. Ça, c'est juste un exemple par rapport à un accident. Donc, il y a toute la réalité rurale à partir du moment où il y a un épisode, à partir du moment où, et aller jusqu'au moment où vous avez les soins définitifs, qui sont souvent dans un milieu tertiaire. Ça, c'est une réalité qui fait en sorte que le pronostic est beaucoup moins bon dans un milieu rural. Et pour ça, et probablement pour plusieurs autres urgences, mais on n'a pas tout étudié l'impact sur toutes les autres urgences.
Oui, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu à Sainte-Terre. Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Terre qui justifiait que l'urgence, ben, c'était au CLSC, je pense, ferme la nuit et que les patients soient justement acheminés vers Val-d'Or à ce moment-là jusqu'au mois de mars?
C'est-à-dire que je ne peux pas commenter sur... Nous, on n'a pas étudié, c'est quand même un phénomène assez récent. On a quand même commenté la situation. On a quand même discuté avec des décideurs, des élus par rapport à Sainte-Terre. Ceci étant dit, cette situation-là, bien, évidemment, ce qui arrive dans les régions rurales, c'est que, et comme maintenant dans les régions urbaines aussi, il y a une pénurie de ressources. Pénurie d'infirmières, par exemple, souvent de médecins. Et là, ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas assez de personnel, ben vous devez soit dans les régions rurales, ben qui sont regroupées par petits centres, ben vous devez des fois à force d'efforts de recrutement, ben les décideurs vont dire ben on sait plus quoi faire, alors on n'a pas le choix que de fermer l'unité plutôt que finalement de la laisser ouverte avec des ressources encore plus limitées. Le réflexe numéro un des gestionnaires dans les régions rurales, c'est de dire, ben écoutez, si on n'est pas capable d'offrir le service, c'est peut-être un peu plus simple de simplement le fermer ou limiter les heures et demander aux gens finalement de se présenter dans un centre qui est généralement beaucoup plus loin de la population. Et donc, ça, ce qui est souvent pas trop réfléchi en détail là-dedans, c'est tout le processus de la population de dire, ben OK, je sais que mon hôpital est fermé, peut-être que je peux attendre à demain pour ma condition, parce que c'est compliqué de me rendre à telle place, je veux pas déranger quelqu'un, je veux pas, ainsi de suite. Ou même dire, ben j'appelle l'ambulance, ben là l'ambulance même, ben écoute, où est-ce qu'on transfère, les distances sont loin. Si un hôpital est fermé, mais ça veut dire qu'il y a plus d'ambulances sur la route pour amener les personnes ailleurs. Et c'est souvent pas nécessairement tout planifié. Donc, la décision administrative est sûrement quand même un peu plus simple. De dire, ben, écoute, il n'y a pas personne. On a quand même, il n'y a pas beaucoup de visites la nuit. On n'est pas capable de staffer cette urgence-là. Ben, on va simplement limiter les heures. Puis bon, la population ira ailleurs.
Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui vivent actuellement ce type de problème-là?
Oui, il y en a plusieurs. actuellement. Je pense que Quaticook fait partie de celle-là. Charlevoix a fait partie de ces milieux-là cet été. Même Gatineau, une urgence quand même urbaine, a été, vous avez vu dans les médias, a limité ses heures d'ouverture. Une urgence urbaine, Gatineau, quand même, il faut le faire. Parce qu'on n'a pas anticipé toute cette pénurie de personnel qu'on connaît. On connaît depuis des années que ça va arriver, mais là, amplifié par la COVID, je pense qu'on a été vraiment réactif plutôt que proactif. Et lorsqu'on prend la décision de fermer un hôpital comme ça, je pense que on ne prend pas le temps de consulter la population, donc les citoyens, les décideurs locaux, les professionnels locaux, pour dire voici ce qui pourrait arriver. Avez-vous des solutions vous-même? Pouvez-vous nous aider dans ce problème-là? Est-ce qu'on peut tous mettre nos idées ensemble, nos ressources pour protéger la population? Beaucoup d'idées créatives qui sont possibles. Malheureusement, des fois, on est devant des faits. Et puis, ben, on se dit, ben, pas grand monde. Peut-être que, tu sais, on peut juste aller ailleurs. C'est trop compliqué de maintenir une urgence rurale ouverte. Il y a comme ce réflexe-là un peu de dire, ben, on a quand même fait notre effort là, de maintenir une place ouverte où il n'y a pas beaucoup de volume. Ben, je pense que la solution. Alors qu'on sait que les risques de ça sont énormes et il faut vraiment mettre l'énergie et anticiper les conséquences et être proactif. Et ce, à travers le Canada maintenant rural.
Oui. Votre équipe a développé un projet de recherche expérimental, le Living Lab Charlevoix. Expliquez-nous, Madame Barrette, un petit peu comment ça fonctionne et ce que vous vouliez faire avec ce département d'urgence rurale à Baie-Saint-Paul.
Oui. Dans le fond, le Living Lab Charlevoix est avant tout un projet de recherche qui découle de la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence. Donc, on est venu s'installer dans un milieu rural, dans le fond, avec deux hôpitaux, donc l'hôpital de Baie-Saint-Paul et l'hôpital de la Malbaie. Le but est de se servir des 10 ans de recherche que la chaire a fait en médecine d'urgence rurale et pouvoir tenter de déployer rapidement les solutions que ces recherches-là ont amenées. On sait que ça prend, puis corrige-moi Richard si j'ai pas la bonne donnée, là, mais 17 ans pour que 14% des recherches se déploient réellement dans un territoire. Et nous, on est un peu à la course à essayer de raccourcir ce temps d'action-là. Donc, le Living Lab a vu le jour au début de l'année 2019, donc juste avant la pandémie. Au lieu de mettre un frein, un stop, une pause aux activités, on est allé sur le territoire. On travaille beaucoup en design thinking. Donc, première étape est l'empathie, c'est d'aller sur le territoire, interviewer, parler, comprendre ce qui se passe réellement sur le territoire et rapidement, ben, ce qui se passait, c'était la peur de manquer de joueurs, de manquer de médecins, d'infirmières sur le banc si les gens tombaient malades. Donc, on a créé le stage de leadership et d'innovation où on a fait venir des résidents qui sont venus travailler avec nous 50% du temps à apprendre c'est quoi le design thinking, comment qu'on amène l'innovation, comment on peut prototyper rapidement des projets d'action qui vont changer le milieu. Et le reste du temps, ben, ils travaillaient dans les hôpitaux pour aider un peu le reste des
pour soutenir des finalement l'équipe. Là. En fait, il s'agit, si je comprends bien, de faire place à l'expérimentation, d'expérimenter de nouvelles choses en région, c'est ça?
Exactement. Donc, tranquillement, ben, on va joindre à chacun des projets des décideurs, citoyens, médecins, etc. Donc, on va monter des équipes pour vraiment impliquer à la base tout le monde.
Oui, parlez-nous d'un projet en particulier.
Ben, on peut parler du projet justement qu'on parlait tantôt là, de la pénurie de personnel dans les hôpitaux. L'an dernier, on a reçu en prototype de stage, au lieu de médecins résidents, on a reçu des étudiants en médecine, donc en début de processus, qui n'avaient jamais nécessairement été dans des hôpitaux pour travailler. Quand leur stage a commencé, la veille avait été annoncée la fermeture de l'urgence de Baie-Saint-Paul la nuit. Et donc, nos étudiants se sont intéressés à cette problématique-là. On a fait venir tous les décideurs, les infirmières sur le terrain pour vraiment comprendre le fond de la problématique. Et pendant l'été, ben, ils ont interviewé les infirmières aussi pour essayer de voir si elles n'avaient pas des solutions. Et donc, ce projet-là, ça continue toujours aujourd'hui avec ces gens-là. Donc, on voit que les gens sur le terrain ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, puis pas nécessairement toujours le temps et la compréhension de comment pouvoir, l'énergie aussi de pouvoir changer les choses. Donc, c'est un des projets là, sur lesquels Oui. On a travaillé avec nos étudiants.
Je suis curieuse, est-ce que les infirmières avaient des solutions? On m'a parlé d'un chiffre de 12 heures, un chiffre de travail de 12 heures qui était déjà fait par certaines infirmières et qui a été repris.
Effectivement, les infirmières, suite à ces discussions-là, avaient ces idées-là. Et ça a été vraiment du leadership de certaines de ces infirmières-là qui ont proposé à leur patron de s'occuper elles-mêmes des horaires. Et de changer les heures de travail, les quarts de travail pour pouvoir combler tous les quarts de travail manquants pour pouvoir ouvrir cet été. Donc, elles ont littéralement sauvé l'hôpital la nuit pendant l'été dernier. Là. Donc, en ce moment, on est en train de voir avec elles et eux, mais parce que c'est quand même une solution qui est un pansement, dans le sens que difficile. Les équipes sont épuisées présentement. Ça n'a pas amené plus d'infirmières dans les rangs. Donc, présentement, on continue de travailler un peu avec elles, de voir, c'est quoi la suite là, pour amener une solution qui est un petit peu plus durable.
Évidemment. Docteur Flitt, vous avez fait une lettre d'opinion, plusieurs, mais une que j'ai lue qui disait « Pour lutter contre les pénuries, devrions-nous faire appel plus souvent aux étudiants? »
Oui, en fait, selon certains rapports, le système de santé québécois pourrait faire face à une pénurie d'environ 70 000 personnes d'ici, je crois, 2024. Alors, pandémie était il y a un impact, comme vous savez, mais évidemment, au long cours, ça va être sérieux comme situation. Alors, on essaye les primes, on va voir, il y a des projets de recherche en cours, voir si ça va fonctionner, le recrutement avec les nouvelles primes, par exemple, d'infirmières. Mm-hmm. On a augmenté les cohortes, on a raccourci les formations des différents programmes, par exemple, en soins d'infirmiers, infirmières auxiliaires. Il reste que on ne pourra pas inventer un nombre croissant, un nombre aussi important de personnes pour répondre aux besoins. Donc, les besoins vont croître de façon significative. Population vieillissante, évidemment, mais aussi un paquet de personnes qui ont retardé leur consultation par rapport à la COVID. Toute l'attente, les plus de 150 000, presque 200 000 personnes en attente de chirurgie, mais aussi tous les problèmes de santé mentale qui ont affecté une portion de la population de façon spectaculaire, particulièrement les jeunes. Alors, pour répondre à tous ces besoins-là, ça va prendre pas mal de monde. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants dans les professions en santé présentement à différents niveaux de leur formation. Si je parle juste des médecins, il y a environ, je me rappelle plus du chiffre exact, mais qu'on avait mentionné, mais je pense que c'est, il y a au moins 4000 étudiants en médecine et 4000 médecins résidents qui sont en différents stades de formation et qui pourraient être appelés. Il y en a plusieurs qui sont déjà sur le terrain, mais qui pourraient être appelés. Ça, vraiment, si par exemple, les étudiants en médecine, on dit, on crée dans le cadre de leur formation maintenant une journée de travail dans le système de santé à différents égards. Donc, un étudiant, par exemple, en première année d'études pourrait faire une journée ou un mois par année, par exemple, pour assister dans les ambulances, dans les CHSLD, dans les laboratoires, pourrait accomplir une tâche rémunérée et une tâche dans laquelle il pourrait apprendre sur le terrain, voir c'est quoi le système de santé. Alors, notre sondage un peu informel auprès des étudiants en études, c'est que la plupart n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital avant de choisir cette carrière-là de médecine. Et on sait, de par les études en leadership, par exemple, mais même au niveau académique, que juste le fait de voir, d'observer, d'écouter ce qui se passe dans un milieu, on apprend énormément. Et ça fait une grande différence, surtout que là, on a besoin de personnes. Donc, évidemment, l'étudiant en médecine ne peut pas intuber des personnes, mettre des brins, mais il peut aider à prendre des notes. Il peut faire un peu de travail clérical, mais pousser des civières, on manque énormément de préposés. Mais il peut aussi contribuer à donner des idées pour améliorer les soins sur le terrain. Et ça va juste faire des meilleurs professionnels engagés au long cours. Maintenant, il faut les libérer. Il faut considérer que cette formation-là a une valeur académique. Et je prends le défi n'importe quel doyen de ça. Il y a une énorme valeur académique d'amener des gens sur le terrain dans cet apprentissage-là, et ça devrait être crédité et rémunéré. Et là, vous vous retrouvez presque du jour au lendemain juste en médecine avec des milliers de personnes. Et si vous faites la même chose en pharmacie, en soins infirmiers, en soins paramédics, vous retrouvez encore plus avec des milliers de personnes. Donc, c'est un peu de dire, ben là, écoute, on a vraiment besoin de monde sur le terrain, on les engage tout de suite à un autre niveau, dans des domaines connexes, mais ils sont pas juste des stagiaires, ils vont aider au système et apprendre, ça soit crédité, et on va former des meilleurs professionnels de demain, je suis convaincu, mais on va aussi aider immédiatement à résorber cette pénurie.
Oui. Comment concrètement soutenir les urgences en région? Est-ce que c'est surtout un problème de manque de personnel, de revenus, de manque d'innovation, Dr. Flick?
En fait, ce qui, évidemment, je veux dire, on c'est sûr que le manque de personnel, ben, il faut être très créatif à savoir, tu sais, et envisager, être encore plus proactif. Et aussi voir l'engagement des communautés. Donc, savoir que votre hôpital en région est là pour répondre à vos besoins, évidemment, de soins chroniques, de soins de base, des fois pas très graves, mais est là aussi pour vous sauver la vie. Alors, si vous voulez une population en santé, ben vous devez aussi vous engager comme communauté, encore plus, surtout depuis que le système de santé est centralisé. Et où souvent les décisions sont prises à distance de la réalité locale. Donc, il faut encore plus mobiliser les citoyens, les décideurs locaux, les impliquer dans être proactifs dans le recrutement du personnel. Les facultés de médecine ont un rôle énorme, tous les départements de santé, de dire on a une responsabilité sociale. Il y a 20% de la population qui habite en région rurale. Ben, je pense qu'il faut au moins que 20% de nos stages ou 20% de nos étudiants soient exposés à la médecine rurale, mais pas juste à l'autre bord des ponts à Lévis ou même dans des régions quand même assez peuplées, mais aller en milieu isolé et contribuer. Parce que ce qu'on sait, c'est que d'amener du monde en région, en stage, les gens apprennent, ils sont, c'est là qu'ils ont le goût de travailler en région, c'est de l'expérimenter et tisser des liens avec des personnes et vous augmenter votre probabilité. Donc, un, c'est améliorer les processus de recrutement. Il y a plein de littérature là-dessus. Mais deux, mieux soutenir les paramédics, mieux les former, donner une autonomie locale, avoir des paramédics en soins avancés, améliorer le transport beaucoup plus rapide, mettre des hélicoptères, améliorer les avions. On est très, très limité sur ce plan-là au Québec comparé à d'autres provinces. Donc, il faut vraiment aider les gens à se rendre le plus rapidement possible aux services d'urgence. La télémédecine, c'est quelque chose qu'il faut développer de façon encore plus importante. Évidemment, continuer de soutenir toutes ces régions-là avec la formation continue, l'implication des universités dans les régions rurales. La médecine rurale touche tout le monde. On y va comme touriste, on a de la famille en région rurale, on beaucoup de travailleurs dans les régions rurales, nos industries, les ressources naturelles sont là. C'est quelque chose qui touche tous les Québécois, Québécoises, tous les Canadiens quelque part, de près de loin, pas juste les gens qui habitent là. Il faut tous mettre la main à la pâte pour dire que les urgences rurales sont là aussi pour nous sauver la vie, puis il faut faire quelque chose du monde ensemble.
Oui. Madame Barrette, vous la voyez, cette mobilisation à Charlevoix et à la Malbaie?
Ben absolument qu'on la voit, on la voit, mais quand même, si on sent que le citoyen a besoin de se rapprocher de son système de santé. Les dernières années, on fait mal, on a perdu beaucoup d'autonomie localement, ce qui fait que souvent les décideurs ne sont plus nécessairement en région, ne mobilisent plus de façon des discussions plus informelles, les gens autour de la situation dans les hôpitaux. Donc, je pense que ça reste urgent là, de rapprocher la communauté des hôpitaux.
Oui, je voyais sur votre site Urgence Rurale 360, c'est un projet de mobilisation citoyenne pour améliorer les soins dans les urgences en région. Parlez-nous peut-être un petit peu de...
Oui, absolument. Ben, Urgence Rurale 360, en gros, c'est un rapport qui a été fait des 10 années de recherche. Donc, pour vraiment faire comprendre c'est quoi ces inégalités-là qu'on parle entre milieu urbain et rural, on pense que de connaître ces inégalités-là, c'est quelque chose déjà d'important pour que les citoyens sachent à quoi ils font face et qu'ils puissent défendre leurs droits par rapport aux soins de santé. Donc, on pense que ça part de là. Et en fait, on teste présentement avec la chair et le Living Lab des nouvelles façons d'exprimer ces données plus scientifiques. Donc, présentement, on a monté avec les 7 doigts de la main un spectacle pour traduire différemment ces enjeux-là. Donc, peut-être que Richard voudra rajouter quelques points à ce sujet-là.
Entendu, Dr Fleet. Vous tournez vers le cirque pour sauver les urgences?
Oui. C'est intéressant parce que, vous savez, donc nous, ça fait 10 ans qu'on présente dans des congrès, on publie des articles scientifiques, puis encore là, on voit que la situation ne s'améliore pas rapidement dans les régions rurales. C'est difficile de rejoindre les personnes, les mobiliser, mais le travail scientifique doit être fait. Et là, avec une étudiante au doctorat art et médecine, notre étudiante au doctorat Julie Théberge, on a un projet où on compare finalement un rapport scientifique standard, un webinaire, donc une conférence scientifique enregistrée, à un spectacle. Là, la vidéo, on a fait un film de ça, mais le but, c'est d'avoir un spectacle qui tourne à travers le Québec et ailleurs. Mais essentiellement, c'est un peu comme J'aime Hydro, c'est du docu-cirque qui décrit les résultats du projet Urgence rurale 360, un projet dans lequel on a mobilisé citoyens, décideurs et professionnels pour vraiment comprendre les problèmes, mais aussi les solutions aux urgences rurales. Alors, vous allez en entendre parler un peu plus davantage. Elle est en train de terminer son doctorat, mais on est présentement à la recherche de financement pour diffuser ce spectacle-là live à travers la province et ailleurs.
Oui, j'imagine dans la province, surtout dans les régions rurales, mais aussi peut-être dans les villes, je ne sais pas.
Exactement, c'est ce que j'allais ajouter dans le fond, parce que tout le monde met un pied en campagne, hein, que ce soit pour faire leurs activités favorites, pour venir faire leurs vacances, pour venir visiter de la famille. Donc, c'est l'affaire de tous les soins de santé en milieu rural.
Entendu. Donc, on va terminer avec ça. Donc, vous venez d'entendre Jenny Barrett, coordinatrice et responsable des relations avec les communautés au Living Lab de Charlevoix. C'est un Living Lab développé par la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence de l'Université Laval. Et on était en compagnie aussi du docteur Richard Fleet, médecin d'urgence et psychologue, et qui est, lui, le titulaire de cette chaire de recherche en médecine d'urgence de l'Université Laval, CI3S et Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci infiniment.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et le micro, cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions le jeudi ou sur le site de l'agence Science Presse aussi à partir de jeudi. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la, bonne semaine, portez-vous bien.
Jing Zhaohua est un chercheur typique.